Radio Django. Vivre à Lausanne.
Et comme promis, on va parler d'une exposition et notamment de la réflexion qu'elle propose au sujet notamment de la communication, plus particulièrement de son caractère intrusif et anti-écologique. On va le faire avec une personne à qui je demanderai de se présenter d'elle-même. Bonjour Patrick Crillon.
Bonjour Fabio.
Qui es-tu ?
Qui je suis ? Alors je suis quelqu'un de tempérament optimiste, caractère pessimiste, peu enclin au bonheur, mais pratiquant assez volontiers la passion de vivre. Et puis, pour le reste, pour le parcours social, disons, professionnel, ben, j'ai été formé en tant que graphiste dans les années 70, profession que j'ai assez rapidement abandonnée quand l'ordinateur a déferlé, ce qui m'a un peu poussé sur la voie de la culture, puisque c'était un peu la seule chose qui restait de disponible pour travailler avec ses mains et sa tête. Et c'est donc dans ce parcours professionnel opéré au sein de la culture que j'ai pu prendre conscience des différents motifs qui animent cette exposition, à savoir, l'une d'entre elles, l'imposture de la culture en tant que culture de consommation et abandon de culture en tant que comportement d'une société.
Voilà, alors on va en parler tout de suite avec toi plus en profondeur. Et tu proposes à travers une installation, l'installation dont tu viens de parler, de réfléchir justement à la communication et à ses conséquences sur notre mode de vie, ainsi que sur l'environnement. Le constat que tu fais, c'est que le gaspillage de papier explose par les possibilités que les nouveaux outils informatiques, notamment, permettent à tout un chacun en termes d'autoproduction, y compris en mode diffusion papier. Autrement dit, on pensait qu'avec l'avènement de l'informatique, on allait diminuer la production de flyers, affiches et autres brochures de promotion, alors que c'est l'inverse qui se produit actuellement. Et ceci, pas seulement dans le domaine commercial, mais aussi dans celui du social et celui de la culture. Ce qui est intéressant dans ta démarche, après avoir vu ton exposition, c'est que tu as pris un lieu cible comme terrain d'analyse, plus précisément Pôle Sud, le centre socioculturel où nous sommes ce soir, une structure justement sociale et culturelle et qui n'échappe pas, elle non plus, à la règle de la boîte aux lettres qui déborde de toute publicité, promotion, centrée justement sur des événements culturels et sociaux, voire politiques. Les arts de la scène, la mode, les cours et séminaires, les rendez-vous militants, etc. Tu t'es donc attelé à recueillir pendant un laps de temps ces kilos de papier pour vérifier l'étendue de la promotion qui est adressée à ce lieu.
Bah, effectivement, c'est-à-dire que le projet est parti d'une réflexion d'une personne de chez vous qui, en fait, s'est indignée, voire même un peu plus, un peu fâchée, contre le travail et le gaspillage, quelqu'un qui est assez sensible aux notions écologiques de notre époque, et qui s'énervait contre le gaspillage et en plus le surcroît de travail que ça lui donnait, de devoir toujours classer, évacuer. Et petite parenthèse, qui fait aussi que classer, jeter, donc ce qu'il faut aussi relever, c'est que dans ce gaspillage de papier, les producteurs que nous sommes et qu'ils sont externalisent le geste écologique en disant c'est pas moi qui vais jeter le papier que j'ai fait, c'est la personne à qui je l'envoie. Ce qui est déjà un premier comportement assez pervers et assez redoutable. Donc voilà, elle s'énervait contre ces pratiques. Et puis évidemment, ben, eu égard à ce que je suis et à, voilà.
Et tu es aussi un usager de ce lieu,
il faut le dire. Je suis, alors oui, c'est justement puisque je viens régulièrement ici travailler et que je connais donc bien cette personne qui, justement, à un moment donné où je travaillais dans le lieu, a émis spontanément cette réflexion qui, moi, m'a interpellé immédiatement. Et je lui ai donc proposé de ne pas laisser passer la chose innocemment, mais de s'en saisir et d'essayer d'en faire quelque chose. C'est comme ça que l'exposition est partie.
Et tu as créé cet événement qui questionne effectivement les gens, les usagers qui passent et puis les visiteurs.
Voilà.
C'est une exposition ouverte à tous. Mais avant de parler de ce que tu as vérifié en écumant les kilos de papier promotionnel, j'aimerais qu'on s'arrête sur le titre de l'exposition ou de cette installation que tu as appelée « De la pub à la com ». Pourquoi ce titre qui invite à réfléchir sur le mélange entre la pub, la réclame, bref, et son côté marchand, et la com, la communication, dont on pourrait croire qu'elle reflète davantage l'ambition de passer une information non commerciale, justement non marchande.
Alors pourquoi ? Ben exactement pour la raison dont tu parles, c'est-à-dire que justement cette confusion est largement entretenue. Alors on ne va pas dire que le militantisme, quand il fait du papillon, le fait dans la même mesure que Veillon ou que McDonald's, non, effectivement. Cependant, ce qu'il faut quand même citer, c'est que tous ces moyens d'information, cette communication qui circule en permanence, elle crée une confusion. Cette confusion, elle n'est pas du tout accidentelle. À mon sens, elle est voulue. C'est-à-dire que finalement, dans un espèce de système aussi léthargique que le nôtre, où finalement tout le monde est un peu à la fois interpellé et à la fois anesthésié, ou en une espèce d'équilibre de funambule entre ces deux choses, ben, pour le système, cette chose-là est parfaite parce qu'elle permet une critique qui ne menace en rien du tout l'équilibre de la stratégie sociale. C'est-à-dire que c'est une critique qui circule, dont on parle, et qui est complètement circonscrite au fait qu'on en parle. C'est tout, ça s'arrête là. Donc le fait, de pour moi, le constat d'échec et la volonté de créer cette analogie de la pub à la com, c'est d'une part pour bien montrer que les gens, peut-être une certaine catégorie, différencient encore cette chose. Pour une grande partie, c'est plus du tout différencié. Et puis, l'autre aspect de la question, c'est que pour une grande partie des jeunes, ils ignorent que la com, son ancêtre, c'est la pub. Mm-hmm. Et que les liens de consanguinité ne sont pas coupés.
Donc, voilà. la com, à ton avis, manipule de la même façon ?
Ah ben, alors, complètement. C'est-à-dire, ben oui.
En tout cas, c'est clair.
Dans les deux registres, on est dans un summum. Et d'ailleurs, j'irais jusqu'à dire que je pense même que la com est faite pour former les gens à la manipulation. On nous forme à ça. Il faut faire des dossiers, il faut créer des choses, il faut instrumentaliser la réalité de sa vie, se présenter sous un certain jour. Donc c'est du mensonge institutionnel qui nous est recommandé par le système. Mais c'est du mensonge institutionnalisé, c'est rien d'autre.
Mais la communication d'une pièce de théâtre, par exemple, qu'on a montée sur, je ne sais pas, sur des problématiques humaines et sociales, est-ce qu'elle ne mérite pas d'être largement étendue ?
Oui, on aborde là des domaines qui sont évidemment délicats à trancher. Je les tranche assez facilement pour ma part, mais je ne vais peut-être pas le faire ce coup-là. C'est vrai qu'on ne peut pas d'emblée exclure tout ce qui se passe actuellement au niveau de la communication. Ce qu'on peut, à mon avis, par contre, exclure, c'est la facilité avec laquelle on peut y accéder et le manque d'effort que ça demande pour parvenir à exprimer un objet de volonté personnelle.
De facilité.
Ouais, on est que dans une époque de facilité. Tout devient facile et les gens ont tendance à croire que c'est merveilleux. C'est
de pas production du tout. À outrance, presque.
De production, et parce que c'est facile, mais que ce qui fait aussi l'intérêt d'une démarche, c'est pas seulement son objet, alors comme tu dis, en spectacle, c'est pas seulement ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'investissement que la personne fournit là-dedans, c'est de voir les dépassements d'elle-même qu'elle doit fournir pour arriver à parler de son objet ou de son intérêt. Parce que ça crée aussi l'intensité de l'action qui va avoir lieu. Si tout devient facile, les actions sont faciles, elles se vident de leur sens, tout devient confortable, et donc ces actions ne génèrent plus rien du tout.
Mais quels sont les discours, à ton avis, que tu retrouves aussi bien dans la com provenant des secteurs sociaux, culturels, militants, que dans les secteurs productifs et mercantiles ?
L'analogie discours, ce sera peut-être difficile de le dire aussi brièvement et rapidement que maintenant. J'irai peut-être pas dans l'analogie discours, mais j'irai en tout cas dans l'analogie des outils de manipulation, c'est-à-dire le visuel. On prend des pingouins pour vendre des bagnoles. C'est pas franchement une analogie de langage, mais c'est clairement utiliser l'affect pour guider le consommateur où on veut. Au militantisme, c'est un peu pareil. Quand on voit les luttes de clochers qui existent maintenant entre certains mouvements sociaux, tout ça parce qu'un dit que noir, c'est mieux que rouge, et l'autre dit que rouge, c'est mieux que noir, en même temps, ils utilisent exactement les mêmes outils de production pour convaincre les autres de la réalité et de la justesse de leurs propos. Donc, quelque part, ça divise, d'une part, et puis, en plus, ça s'annule. Parce que si l'outillage est le même, les résultats seront les mêmes dans les deux camps, donc ça va s'annuler. Comment fait quelqu'un qui doit dire qu'il défend à la fois le rouge et le noir ? Eh bien, soit il ne défend plus rien, soit il décide arbitrairement. Ce qui veut dire que les stratégies d'un côté comme de l'autre sont obsolètes et inutiles.
Donc tu retrouves, toi qui es un bon observateur de ces stratégies de communication dans les dans les domaines du social et du culturel, tu retrouves un peu les mêmes discours. Tu retrouves
les mécanismes. Les discours sont évidemment, c'est plus fin. Il faut adapter. Tu vois, tu vas pas choper un metteur en scène de la même manière que tu chopes une femme de ménage pour sa lessive à la COP. Ça, bien évidemment pas. Mais ils sont assez habiles. Il faut pas oublier que c'est leur métier, qu'ils font ça depuis bientôt un siècle et qu'ils se transmettent ce savoir de les uns aux autres. Ils sont devenus assez habiles pour pouvoir instrumentaliser à peu près n'importe quoi.
Mais ça, c'est les grandes firmes de communication. Mais comme on le disait tout à l'heure, aujourd'hui, la communication, elle est un peu sous l'ordinateur de tout un chacun. Et tout le monde fait sa promotion, fait la promotion de son petit spectacle, de la soirée.
Tout le monde devient une petite agence de com, ce qui veut dire qu'effectivement, tout le monde n'a pas les outils que des multinationales de la communication ont à disposition, y compris les avocats qui sont là pour défendre quand ils font des couilles. Mais tout le monde n'a pas ces outils-là. Par contre, le comportement, de nouveau, c'est-à-dire, souviens-toi, dans les années 80, ça a commencé, le nombre de manuels, comment arriver dans sa carrière, on trouvait ça dans les gars. Ça, c'est de la com, c'est de la manipulation, c'est le départ du marketing, de la stratégie commerciale. Et ça, on vendait ça dans les kiosques, dans les gares. Tout le monde s'est abreuvé de ces littératures de merde, on ne peut pas dire autrement.
Et donc, c'est tout ça qu'on retrouve aussi dans cette installation que tu viens de proposer au Pôle Sud. Alors, un constat, j'en suis où ? Oui, quel est le constat ? Quantitatif d'abord. Donc, tu as pris ce lieu comme terrain d'expérimentation et tu as récolté 2 tonnes de...
Alors, j'ai récolté, je pense que déjà, il faut relativiser, je pense que c'est tout à fait indicatif, parce que, en fait, déjà, tu sais que le projet, on l'a lancé de façon assez rapide, enfin, oui. C'est un peu arraché. J'aurais pas la malhonnêteté de dire que ce qu'on voit dans le lieu est représentatif de façon fiable, mais ce que ça montre quand même, c'est que c'est à peu près sur une période de 3 semaines, 1 mois qu'on a décidé tout ça. Tout n'a pas été gardé non plus, il faut le dire aussi.
Bien sûr.
Ce que ça montre, c'est quand même qu'on couvre quand même 4 murs d'un petit lieu avec des formats petits, moyens, quand même dans l'ensemble plutôt du domaine du papillon. En soi, quantitativement, peut-être ça ne représente rien. C'est comme quand on dit à quelqu'un d'autre gagne 1 milliard. Et à un moment donné, ça ne veut plus rien dire. Mais ce que ça montre, c'est qu'on peut s'intéresser à ce projet, s'y arrêter et voir qu'effectivement, dans un lieu aussi finalement petit, parce que vous êtes une structure où vous bossez beaucoup, vous n'êtes pas 300 comme dans une... Donc, dans une structure assez petite, finalement, où les interpellations individuelles sont limitées, 4, 5, 6 personnes, ça produit quand même, enfin, ça fait beaucoup de consommation.
Sans compter qu'il manque tout ce qui arrive via Internet, bien sûr, hein, ouais. dont t'as pas récolté les résultats, parce que parfois on reçoit aussi des messages avec des fichiers attachés comme quoi il faudrait imprimer des choses pour les mettre à disposition des usagers. Des recettes. Est-ce que cette installation propose des recettes un peu pour sortir un peu de ce...
L'installation en elle-même, pas totalement. Enfin, elle propose 2-3 choses. On peut remarquer au passage des vestes écrites. Qui était une initiative personnelle que je faisais spontanément pour mon plaisir. Et au cours de certaines discussions, j'ai pris conscience du fait que ça pouvait tout à fait devenir un support. L'homme sandwich, mais n'a pas obligé d'avoir un panneau de 1,5 kg sur ses épaules pour fonctionner. Si tu écris sur ta veste tel événement, tel lieu, tel moment, sur un événement régulier, eh ben ça fonctionne. Mmh. Donc du coup, évidemment, tu n'en as pas 300 000 qui circulent, mais de toute façon, ça sert à quoi qu'il y en ait 300 000 qui circulent ? Si quelqu'un à Lausanne a ça sur sa veste, moi je l'ai vérifié avec la mienne, à un moment donné, c'est devenu carrément connu.
Donc l'idée, c'est de porter soi-même un
peu
le message.
De porter le message soi-même. Ou alors, autre solution, c'est de se redélier un petit peu la langue, pas seulement la langue. Je viens de vivre ça tout à l'heure, une jeune fille m'a interpellé dans la rue pour me dire bonjour, et on a eu une grande discussion, elle voulait simplement me dire bonjour. Ben, si on délie nos langues, et puis qu'on reprend contact avec les gens un peu comme on en a envie dans la rue, ben, c'est des terrains de... Enfin, je veux dire, si moi je rencontre quelqu'un, je dis bonjour, comment vas-tu, personne ne peut m'empêcher de lui dire, eh ben, il y a une clôture d'exposition à Pôle Sud, est-ce que tu veux venir ? Donc, ça, c'est un moyen de communication immédiat qui, en plus, a l'avantage de solidariser les gens où il y a une action possible, mais pas des petits Chinois qui sont à 10 000 km puis qui peuvent strictement rien pour nous ici. Quoi.
Absolument. Donc, le côté régional de la communication, voilà. Elle doit aussi être
très important.
Ah, bon, merci beaucoup pour ton passage. passage, Patrick. Tu viens de le dire, il va y avoir à la fin de cette semaine, vendredi, un finissage de cette exposition qui est donc visible jusqu'à vendredi 3 février. L'exposition, je rappelle, elle s'appelle « De la pub à la com ». Et il est prévu un finissage sous la forme d'une verrée et d'une discussion aussi. L'idée, c'est de partager un petit peu ce que les gens ont à dire par rapport à... Enfin, pour continuer un peu le débat qu'on vient d'avoir un petit peu, toi et moi, au micro de Radio Django. Merci beaucoup.
Ça me fait très plaisir.
Alors, rendez-vous à Pôle Sud, vendredi 3 février, dès 18h. Merci, Patrick.